profondeur, Dieu m'avait mis à cœur de parler des chemins inexplicables de Dieu. Alors ça tombait bien, parce que j'ai aussi commencé par leur parler du détour que nous venions de vivre, n'est-ce pas ? Les détours, on n'aime pas ça. Et pourtant, ils sont au programme de la vie avec Christ, et c'est parce que Dieu dit le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Dieu connaissait son peuple. Il savait que son peuple était immature pour faire le trajet direct. Son peuple était immature pour faire le trajet direct. Quelqu'un écrit ceci, « La vie chrétienne n'est pas une promenade de santé avec air conditionné et vitesse de croisière. Le berger de nos âmes nous dirige personnellement sur une route parsemée de bosses, de tours et détours, de nids de poules, d'embouteillages, de tempêtes de neige, d'accidents, de précipices, de faux panneaux de signalisation et même d'attaques terroristes. » Quelle lucidité! Quelle lucidité! Et je pense ici à un de ces cols empruntés non sans appréhension par les coureurs du Tour de France presque chaque année. Nous y avons passé des vacances au pied de ce col dans les Pyrénées, le col de Tourmalet, du Tourmalet, 2114 mètres. C'est le plus haut col des Pyrénées françaises et il est intéressant. Oh, pas tellement pour les coureurs, parce que on les fait emprunter un immense détour, ou alors qu'ils pourraient aller de Tarbes à Pau directement par la plaine, par une route absolument magnifique. Si bien qu'ils comprennent très bien la signification du mot tourmalet. Tourmalet veut dire mauvais détour. Alors il y a dans notre vie de disciples de Jésus-Christ des mauvais détours. Ce qui nous apparaît à nous comme des mauvais détours, mais qui fait partie de notre itinéraire dans ce tour de la vie chrétienne, dans cette grande boucle ici-bas, qui doit nous conduire non pas sur les Champs-Élysées à Paris, mais dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Quelle était la raison immédiate du détour? Donc, nous l'avons dit, l'immaturité d'Israël, incapable de supporter le choc avec les Philistins, d'autant plus qu'on sait qu'à cette époque, les Philistins étaient très aguerris, ils étaient avancés en technique militaire, ils utilisaient déjà des chars de fer, il y avait sans doute des ancêtres du futur Goliath de Gath et de toute sa famille, dont il est question à l'époque de David. Ils auraient emprunté la Via Maris, la grande route côtière qui était généralement empruntée par les Égyptiens lorsqu'ils partaient en conquête, soit en terre de Canaan, soit beaucoup plus au nord dans ces régions qui sont l'équivalent de la Syrie en deux mots et de la Syrie en un mot à l'heure actuelle. Hein. Il y avait à cette époque déjà des fortins tout le long de cette voie Maris, des fortins occupés par l'armée égyptienne et qui surveillaient cette voie de passage. Alors vous imaginez un petit peu ce que ça aurait signifié pour Israël qui échappait précisément à l'esclavage égyptien. Dieu savait tout ça. C'est ce qui est fantastique, n'est-ce pas? Et dans bien des situations, on apprend à dire « Seigneur, tu sais ce que je ne sais pas ». Nous qui voyageons beaucoup, encore il y a, quand nous sommes partis en Belgique pour Mons et Bruxelles, il fallait contourner, parce que nous habitons au sud de Paris, donc près d'Orléans, il nous fallait contourner la région parisienne. Et vous savez, chaque fois qu'il faut contourner la région parisienne aujourd'hui, c'est un casse-tête épouvantable. On se demande laquelle... lequel des trois périphériques il faut utiliser, parce que vous avez trois ceinture maintenant, depuis la plus proche du centre de Paris, qu'on appelle le périphérique, jusqu'à la plus lointaine, qu'on appelle la francilienne. Mais c'est devenu un casse-tête, et pratiquement chaque fois, et je me souviens dans la voiture à dire, mais Seigneur, toi, tu sais ce qui se passe en région parisienne. Moi, je ne le sais pas. Alors, Seigneur, je suis oreille ouverte, yeux ouverts, rends-moi sage pour que je comprenne comment on doit faire, laquelle de ces routes il faut emprunter, n'est-ce pas ? Alors parfois on se retrouve quand même dans des embouteillages parce que Dieu a sans doute aussi des choses à nous apprendre dans ce domaine-là. Mais Dieu sait ce qui est devant nous. Et il faut que nous nous en souvenions face à cette question de la souffrance. Oh, nous aurions pu prendre d'autres textes sur les lenteurs d'Exode 23, 29, 30, Deutéronome 7, 20, de tous les freins que Dieu a mis même à la conquête du pays promis par Israël. Il y a eu une première partie de guerre éclair, où c'est allé très vite. Mais Dieu a aussi mis des freins pour que ça n'aille pas trop vite. Parce que même en terre promise, Israël n'aurait pas eu justement la force de vivre une conquête trop rapide. Alors Dieu a installé des freins dans la conquête, pendant la conquête. Vous pourrez lire ça dans les textes que je viens d'évoquer, ceci pour la sauvegarde d'Israël. J'ai noté en rouge dans mon manuscrit les petites souffrances, des détours et des lenteurs incompréhensibles valent mieux que les grandes souffrances des défaites inutiles. Retenons cela. Parce que comme nous le verrons, nous avons un gros problème avec ces questions de détours. Et parce que nous refusons dans bien des situations les détours par lesquels Dieu veut nous faire passer, parce que nous ne comprenons pas la logique de Dieu, nous nous retrouvons empêtrés dans des situations qui vont alors engendrer des souffrances liées à notre péché. Vous voyez la différence ? Et il nous faut apprendre que la logique de Dieu est loin d'être toujours notre logique. Hein. C'est ce que dit déjà le prophète Ésaïe et d'autres, n'est-ce pas ? Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et nous avons tellement de peine à cesser de nous fabriquer un Dieu à notre image, qui pensent comme nous. Nous avons beaucoup de peine. Nous nous fabriquons un petit Dieu qui raisonne comme nous, et Dieu a un mal fou à modifier nos systèmes de pensée pour que nous apprenions ses équations à lui. Ça nous pose un tas de problèmes et de souffrances que Dieu voudrait nous éviter. Mais puisque nous les voulons, ces souffrances, nous les avons, qui nous poussent au pied de la croix pour demander pardon. Et puis ensuite, ce qui est bien, ça c'est l'alchimie divine de la grâce, Dieu va utiliser même ces souffrances pour nous faire grandir. Mais seulement quand nous aurons demandé pardon, n'est-ce pas ? Alors, à partir de là, de cet amour de Dieu qui dose et contrôle nos épreuves, nous prenons une des rares paraboles dans le prophète Ésaïe au chapitre 28. Ésaïe, chapitre 28, je vous encourage vraiment à ouvrir vos Bibles là parce que nous avons un passage court mais qui vaut la peine d'être encadré en fluo et d'être relu dans nos vies de temps à autre. Il s'agit des versets 23 à 29. Ésaïe 28, versets 23 à 29. Alors, pour donner du relief à ce passage, il est important de le placer dans son contexte. Ésaïe 28, 23 à 29. Lorsque Ésaïe, de la part de Dieu, raconte cette parabole, il le fait à un peuple qui est à une année environ du drame le plus épouvantable qui puisse le frapper, sa déportation en terre assyrienne. Toute une partie du livre d'Ésaïe est tournée vers la menace du châtiment, non pas par les Babyloniens, ça ce sera plus tard et ce sera essentiellement Jérémie, puis Ézéchiel, mais sous un autre angle. Mais là, ça vise d'abord au premier chef le royaume du Nord, c'est-à-dire les 10 tribus, Samarie, toute cette région, et par ricochet, comme toujours, bien entendu, Ésaïe parle pour le royaume du Sud, afin que le royaume de Juda apprenne des leçons de ce qui est en train d'arriver de dramatique dans le royaume du Nord. La situation est terrible, n'est-ce pas ? Un an avant, hein, le prophète Osée est en train, lui, de prêcher, de supplier, de menacer. C'est une période extrêmement difficile. Il va y avoir siège, il va y avoir déportation. Et au cœur d'un message qui est extrêmement noir, sombre, sévère, à un moment donné, Ésaïe sourit de la part de Dieu, le sourire de Dieu, et il raconte cette parabole pour que le peuple comprenne que dans cette situation où le jugement va se manifester, ce Dieu-là ne perd pas les pédales, que ce Dieu-là a le sens de la nuance. Que ce Dieu-là, même quand il est le Dieu terrible, reste un Dieu quelque part courtois. Et c'est extraordinaire de voir que ce Dieu qui se met en colère, et qui sait si la colère de Dieu occupe une place prépondérante dans les Écritures, et nous n'en parlons pas assez, parce que nous nous conduirions autrement, surtout que la colère de Dieu n'a rien à voir avec celle des hommes. Elle est totalement différente dans son essence, dans ses manifestations, etc. Mais c'est beau de voir que dans ce cadre, et avant qu'au chapitre 29, Ésaïe reparte aux malédictions, un jet de lumière. Ça, c'est propre aux Écritures. C'est jet de lumière, toujours pour nous montrer que dans les situations les plus tragiques, où la main de Dieu se fait pesante, nous n'avons pas affaire à un Hitler, à un Néron, à un Torquemada ou à un Nebuchadnezzar, etc., n'est-ce pas ? Mais bien à un Dieu dont la personne et les œuvres sont délicieuses. Alors je lis au verset 23, « Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. » Ça c'est typique de l'approche hébraïque, n'est-ce pas, la manière dont on redit les mêmes choses sous diverses formes pour être sûr d'être entendu, voyez. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nigelle avec le bâton, et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Admirable est son conseil et grandes sont ses ressources. Moi, je trouve ce texte absolument délicieux. L'équilibre de Dieu. L'équilibre divin. Nous pourrions le commenter d'abord, avant de prendre le texte lui-même, par d'autres textes, toujours cette manière qu'a Dieu de corroborer ses grandes vérités. Il y a une unité de pensée qu'on retrouve au travers de toutes les Écritures où on voit que Dieu est égal à lui-même en permanence. Si vous allez à nouveau dans le livre de l'Exode au chapitre 15, Exode chapitre 15, regardez avec moi ce beau texte d'Exode 15. Bon, maintenant, le détour est fini. La mer a été franchie. Le cantique de Moïse, de Marie, d'Israël a retenti. Et puis on marche. Moïse fit partir Israël de la mer, verset 22, de la mer Rouge, de la mer des joncs. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Ils arrivèrent à Mara. Et ça ne vous gêne pas, ma lecture? Écoutez, c'est pas de ma faute. Je reprends le texte. Ils prirent la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche dans le désert, ils offrirent des sacrifices à l'Éternel. Ils ne... Point d'eau. Mais vous vous dites, mais pourquoi est-ce que je raconte ça? Vous posez la question. Hein? Est-ce que vous vous souvenez de l'histoire des 10 plaies? Il y a un refrain qui revient aux 4 fois au moins sur les lèvres de l'Éternel quand il s'adresse à Moïse, puis sur les lèvres de Moïse quand il s'adresse à Aaron. Laisse partir mon peuple, laisse-le sortir dans le désert. Accorde-lui de pouvoir faire 3 jours de marche dans le désert pour qu'il puisse offrir des sacrifices à l'Éternel. Et c'est incroyable comme le Saint-Esprit a enfoncé cette petite phrase dans le cœur de Moïse pour qu'elle soit reproduite dans le texte inspiré. 3 jours de marche dans le désert, 3 jours de marche dans le désert. On l'a même lu dans Nombre 33. Eh bien là, curieusement, cette expression revient. Et le problème, c'est qu'après 3 journées de marche dans le désert, ils n'ont pas offert d'abord des sacrifices à l'Éternel, ils ont été en panne de carburant, et du carburant le plus essentiel à la vie, l'eau. Et c'était d'autant plus difficile que à Mara, il y avait de l'eau. C'est pire encore. Parce que quand vous voyez l'eau, vous dites « ouf !» Et puis quand vous buvez, vous vous rendez compte un peu ce que ça représentait. Mara. Mara. Ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Ne m'appelez pas Naomi. Ou Noémie, peu importe. Appelez-moi Mara. Et vous avez un mais là, vous voyez ? Encore un de ces mets, mais c'est encore un de ces mets de l'éducation au désert. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara, le peuple murmura contre Moïse, disant « Que boirons-nous ? » Moïse cria à l'Éternel. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là... J'aime ce petit mot « là ». J'en parle dans mon livre « Fidèle, quoi qu'il en coûte ». Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Dans le domaine de la viande et du pain. Lisez la suite. Les cailles et la manne. L'eau, la viande, le pain. Un jeune peuple. Bon, il a des centaines d'années derrière lui, mais c'est un nouveau démarrage. Hein. C'est le démarrage qui correspond à la Pâque, qui pour nous correspond à la nouvelle naissance. Et il faut que la toute jeune foi du peuple d'Israël, qui a connu la Pâque, la libération de l'esclavage, ce passage miraculeux par la mer Rouge, il faut que cette jeune foi soit mise à l'épreuve dans les domaines fondamentaux de la vie. L'eau, le pain, la viande. Tout disciple de Jésus-Christ, qu'il soit dans l'œuvre de Dieu, comme on dit, à temps complet, pasteur, missionnaire, enfin tout ce que vous voulez, qu'il soit à temps complet sans avoir une vocation très spécifique, tout disciple de Jésus-Christ doit apprendre à dépendre de Dieu pour le pain, la viande et l'eau, c'est-à-dire pour les biens de base. Et ça, nous avons de la peine à le comprendre. On se convertit à Jésus-Christ et puis après, on gère son budget n'importe comment. Après, on continue à vivre à crédit. Après, on achète une voiture parce que ça nous chante, etc., etc. Ah bien, Dieu dit non. Dieu dit non. Le Dieu sauveur et Seigneur. Ça veut dire qu'il va nous mettre à l'épreuve. Ça veut dire que lui va permettre que sur notre chemin du désert, vers la fécondité, il y ait des eaux de Marah. Et après les eaux de Marah, regardez la suite. Verset 26, il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Et puis, vous avez le verset 27. « Ils arrivèrent à Élim. » Nous avons vu, mon épouse et moi, le bonheur de faire ce parcours au désert. C'était en février 1985, j'étais moi-même allé en 1970 en Israël, mais là, nous avons pu faire un certain nombre avec Alain Jeanne Choiquier, d'ailleurs à cette époque, Ralph Chalis et son épouse, on a pu faire un voyage. Et nous avons fait l'allée de la région de Tel Aviv jusqu'au Caire très rapidement, 500 kilomètres par la route côtière, la route des Égyptiens. C'était rapide, c'était confortable. Mais une fois que nous avions passé quelques jours au Caire, nous sommes remontés par les déserts. Puisque c'est toute une succession de déserts qui sont très différents les uns des autres. Et nous sommes arrivés dans le lieu qui est probablement le Marah des Écritures. Et puis, très rapidement ensuite, nous sommes arrivés à Élim. Élim est à 8 kilomètres de Marah. Mais quand vous arrivez à Élim, dans un paysage d'une sécheresse et de ces couleurs ocre qui sont propres à cette région et d'ailleurs à tout le massif du Sinaï, et que subitement vous voyez cette tache d'un vert extraordinaire lié aux sources qui sont encore là-bas maintenant, ah, c'est extraordinaire, extraordinaire. 8 kilomètres, mes bien-aimés, entre les deux. Dans nos vies, c'est comme ça. Hein? Dans nos vies, c'est aussi comme ça. Mais c'est tellement beau. Ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. 12 sources d'eau et 70 palmiers. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont compté? Vous savez, quand on compte dans certains domaines, c'est que vraiment, ça vaut la peine de compter. Hein? Et 12 sources. Alors, là encore, j'imagine Moïse et ses lieutenants là, qui disent « Bon, combien de tribus ? 12 ? Alors, la tribu de Judas, vous avez 7 sources là-bas. La tribu de Zabulon, vous avez 7 sources là-bas, n'est-ce pas ?» Et puis ensuite, dit « Ah oui, mais c'est vrai que nous avons maintenant un corps d'anciens en formation, 70 anciens. Alors, les 70 anciens, levez la main. Alors, toi, tu vas sous ce palmier, vous avez un palmier, chacun pour soi. » Ah non, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais vous pouvez vous imaginer ce qui se passait. Cette pédagogie de Dieu qui, sur notre itinéraire, va placer une source amère, situation difficile, déconvenue, incompréhension. Les choses ne tournent pas comme on aimerait qu'elles tournent. On aimerait tellement offrir des sacrifices à l'Éternel, et voilà qu'on se retrouve devant une mare d'eau saumâtre, amère. Et puis la découverte de la grâce de Dieu, parce que bien sûr, il faudrait commenter ce morceau de bois qui tombe à l'eau, en respectant l'analogie des Écritures. On ne va pas le faire maintenant. Et puis après, quand la première leçon de Dieu commence à pénétrer dans la mentalité de ce peuple qui a tant à apprendre dans ce domaine, alors Dieu fait grâce et montre qu'il est capable de donner à son peuple la surabondance. Bien sûr, Dieu est passé sur les murmures d'Israël, parce que Israël, à cette époque, était un peuple ignorant. Il fallait le détour. Nous le redirons dans un instant. Il fallait le détour par le Sinaï. Tout ce qui s'est passé avant le Sinaï, et qui sait le nombre de fois où Israël a murmuré avant le Sinaï, face à chaque difficulté, le moulin des murmures recommençait. Et chaque fois, avec une grâce infinie, Dieu est passé par-dessus les murmures, parce qu'il savait que son peuple était un peuple bébé. Il avait tout à apprendre. Donc il a donné avec beaucoup d'amour et de tact les leçons qui étaient nécessaires. Mais après toutes les manifestations de gloire et de grâce de Dieu sur ce chemin jusqu'au Sinaï, puis pendant toute l'année, un peu plus d'une année qu'ils ont passé au Sinaï, où ils ont appris, ils ont fait une école biblique au pied du Sinaï, alors, après, lorsque le peuple de Dieu, ne tenant pas compte de tout ce qu'il avait appris durant toute cette première partie depuis la sortie d'Égypte jusque dans le Sinaï a continué à murmurer, alors la pédagogie de Dieu s'est faite différente. Tu es en train de devenir un peuple responsable. Et chaque fois que tu murmures, ce n'est pas contre les hommes que tu murmures, ce n'est pas contre tes chefs que tu murmures, ce n'est pas contre Moïse et Aaron que tu murmures, c'est contre moi que tu murmures. C'est un crime de lèse-majesté. Chaque fois que tu pèches au peuple d'Israël, sache que tu pèches d'abord face à ton Dieu qui a déployé sa grâce, sa puissance, sa gloire, sa générosité, son amour de tant et tant de manières pendant tout ce premier temps de parcours au désert. Nous aurions pu évoquer dans la suite de l'histoire du peuple d'Israël, Nombre chapitre 13, lorsque le peuple d'Israël obtient de la part de Moïse qu'il a obtenu de la part de l'Éternel l'autorisation d'envoyer des espions, 12 espions, en reconnaissance dans le territoire promis. Alors plusieurs textes nous indiquent qu'effectivement Dieu a donné son feu vert. C'était peut-être pas la plénitude parfaite de la volonté de Dieu, mais il a donné son feu vert. Il connaissait les cœurs. Et ce qui est frappant, n'est-ce pas, c'est que dans la découverte du contenu du pays promis, il va y avoir, et là je cite simplement Nombre 13, versets 22 à 24, dans cette exploration, verset 22, ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Shéchaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte, donc un territoire peuplé de géants. C'était plus que des armoires à glace. Hein? Mais il y a tout de suite le verset 23, ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshkol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche, et ils prirent aussi des grenades et des figues. Vous remarquez que, là encore, la pédagogie de Dieu est extraordinaire. Ils découvrent des géants qui les font trembler, et aussitôt après, ils découvrent des grappes de raisin géantes qui les bouleversent à cause de la générosité extraordinaire dont ce pays est capable. Mais qu'est-ce qui va se passer ensuite, quand ils rentrent faire leur rapport? Ils ne vont pas s'apesantir sur les grappes, ils vont s'apesantir sur les géants. Et c'est ça le problème. Et c'est comme ça que nous sommes, mes bien-aimés. On oublie les grappes et on présente les géants par incrédulité. Et le résultat, vous savez, hein? Ils ont fait un détour. Un détour dans le désert qui a duré près de 40 ans. Il y a des détours qui sont dans la volonté de Dieu, dans la pleine volonté de Dieu, dans le meilleur de Dieu pour nous. Avec tout ce qu'ils peuvent signifier comme caractère énigmatique, incompréhensible, n'est-ce pas? Mais ils sont dans le plan de Dieu. Et il y a ces détours qui sont liés à notre incrédulité. Où nous nous plaçons dans des situations qui vont freiner sensiblement notre croissance spirituelle parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Souvenons-nous de ça. Il faut toujours parler des deux détours. Vous voyez ? Et le résultat, c'est quand même que toute une génération, hein, les 20 ans et au-dessus, va périr dans le désert et qu'il va falloir le Deutéronome pour redire l'enseignement fondamental et y ajouter un certain nombre d'éléments qui permettront la vie de la nouvelle génération après la conquête et pendant la conquête en terre promise. Voyez, encore une illustration, nous aurions pu, mais nous arrêter très très longuement sur David dans les déserts. On va pas le faire parce que je vois, ça tourne tellement vite. Vivement qu'on soit au ciel et qu'on ne regarde plus sa montre. Je vous donne les références pour que nous ne les lisions pas toutes. Je vous disais ce matin dans notre introduction que les deux études étaient faites pour s'équilibrer. De manière à ce que nous ne partions pas de ce week-end découragé en nous disant ouais, si je dois affronter un Saül dans la suite de ma vie comme David a été conduit à l'affronter, ça va pas être marrant du tout, n'est-ce pas? Mais ce que nous oublions généralement, c'est que faut-il parler de l'humour de Dieu dans sa souveraineté, l'humour plein d'amour de Dieu dans sa souveraineté parfaite. Il est allé chercher dans la petite cellule la plus proche, familiale, du pire ennemi de David, le meilleur ami que David ait pu avoir, Jonathan. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je considère que dans l'ensemble des Écritures, Jonathan est l'exemple suprême de ce que peut être un véritable ami. Parce qu'alors, les textes qui en parlent, 1 Samuel 18, 1 à 4, 19, 1 à 2, 20, verset 17, verset 41, 43, 23, verset 15, 16, 2 Samuel 1, 26, ce chant funèbre lié au décès tragique de Saül et de ses trois fils, dont Jonathan, où il va confesser, David, que l'amour de Jonathan pour lui était supérieur, plus merveilleux littéralement que celui des femmes. Texte qui a été odieusement exploité par un certain nombre de groupements homosexuels, se disant souvent chrétiens, qui s'appellent d'ailleurs, pour certains d'entre eux, les David et Jonathan. David aurait été un homosexuel. Vous voyez ce qu'on peut faire avec les Écritures quand on projette la turpitude de son cœur naturel. Mais nous faisons un tas de projections, nous aussi, en mettant sur le compte de Dieu, etc., bien des choses qui ne sont pas toujours très jolies non plus. Mais enfin, c'est quand même tragique, n'est-ce pas? Mais ça souligne d'autant mieux l'intensité de l'amour de Dieu à l'endroit de David qui va chercher un fils de Saül pour être celui qui a encouragé David de manière absolument extraordinaire. Un des textes, je crois que c'est au chapitre 23, nous dit que alors que David est dans une situation très très difficile poursuivi par Saül, qui se pointe alors qu'ils sont séparés, qui se pointe dans la forêt où il se cache? Jonathan, qui vient pour l'encourager, pour fortifier la confiance de David en son Dieu. Alors ça, c'est l'équilibre de Dieu. Et je crois, là, il m'est arrivé tant de fois de dire, mais Seigneur, ouvre mes yeux pour que, face au Saül que je confronte, je puisse voir aussi les Jonathan dans la forme que tu leur choisis, qui vont contrebalancer la perfidie, la rudesse, la dureté de ces Saül dont tu te sers pour me former. Hein? Souvenons-nous toujours de cet équilibre divin qui est absolument extraordinaire. Alors, je reviens maintenant, parce qu'il faut quand même qu'on revienne à notre parabole. Elle est là pour que, quand même, on la décortique un tout petit peu. Ésaïe 28, verset 23 et suivant, nous allons simplement maintenant considérer son contenu à partir de ces quelques exemples. Versets 23 et 24. Je lis le verset 24. Surtout, celui qui laboure pour semer laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? Bien entendu, on le voit par la suite. Ce sont des questions qui exigent une réponse négative. L'apôtre Paul a souvent usé de cette formule, notamment dans l'Épître aux Romains. Vous le voyez un peu plus loin, n'est-ce pas, au verset 28, « On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. » Alors, béni soit Dieu de ce que s'il laboure notre cœur, il ne le laboure pas toujours. Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Eh bien, il y a un cycle. Il y a un cycle dans la nature, il y a un cycle dans nos vies, labourage, ensemencement, croissance, récolte, battage, foulage, repos. Et je ne me lasse pas de reprendre cette histoire de ce croyant authentique qui voyageait en train, et pour un long voyage, à une époque où les trains n'étaient pas encore équipés d'électricité. Et la voie ferrée empruntait plusieurs tunnels, et il avait une bonne conversation avec son voisin, dont il savait que c'était pour lui son premier voyage. Lui avait déjà un peu l'habitude, mais l'autre n'avait pas du tout l'habitude, c'était son premier voyage, et subitement, le train entre dans un tunnel, plongé subitement donc dans le noir. Et alors, le plus ancien des deux, qui avait l'habitude, se dit, mais mon cher voisin, là, il doit être complètement affolé. Dans le noir, dans l'obscurité, il ne sait pas combien de temps. Bon, tout ça, ça passe très rapidement dans son esprit. Mais comment est-ce que je pourrais faire? Alors, bien sûr, il ne lui a pas mis la main sur le genou parce que l'autre aurait fait une crise cardiaque, sans doute. Mais le plus gentiment possible, il lui a dit, « Mon ami, réjouissez-vous, nous ne sommes pas dans un sac. Il y a un trou à l'autre bout. Nous ne sommes pas dans un sac. Il y a un trou à l'autre bout. Il n'y a pas que des tunnels dans notre vie. Il n'y a pas que des tunnels dans notre vie. Il y a des moments où nous sortons des tunnels. Parfois ces tunnels sont longs et nous désespérons d'en sortir et nous entendons l'ennemi susurrer, tu sais, ne t'attends pas à ce que ça aille mieux. Surtout quand dans un premier temps, c'est pire. Et puis on sort. On retrouve la lumière. Et à ce moment-là, nous devons nous souvenir, quelqu'un l'a dit si bien, le pessimiste voit le tunnel, l'optimiste voit la lumière au bout du tunnel, mais le réaliste voit le tunnel, la lumière au bout du tunnel, et le prochain tunnel. C'est important, mes amis. Rendez-vous compte que l'illustration la plus sévère, c'est Job qui la donne. Alors qu'il est prosterné dans la poussière, en disant l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, c'est l'Éternel qui l'a fait, n'est-ce pas ? Il ne s'attend pas à ce qui va lui tomber dessus. Il y a déjà le deuxième tunnel qui est très très proche du premier. Ça, c'est l'aspect particulièrement douloureux dans la vie de cet homme de Dieu. Et puis quand il est au bout du deuxième tunnel, c'est-à-dire que la maladie l'a frappé, il y a déjà le troisième tunnel qui est là. C'est ses trois compagnons qui arrivent. Bon, alors, c'est un exemple suprême dans les Écritures, qui est destiné, en deçà de l'exemple suprême par excellence, celui de Christ, à être le soutien de ceux qui connaissent ici-bas, dans leur pèlerinage, le summum de difficultés. Dieu a prévu dans sa parole pour chacun d'entre nous la mesure, n'est-ce pas, de soutien à travers des exemples extrêmement variés. Et là aussi, nous n'allons pas le faire, mais nous aurions pu prendre l'exemple de la formation de David. Nous parlions tout à l'heure des déserts dans la vie de David. Il se sauvait d'un désert à l'autre. Alors, on aurait pu parler du désert. On a vu Élim, n'est-ce pas? Mais après, il y a le tunnel de Sin, avec un désert et la faim, et ainsi de suite. À un moment donné, il quitte un désert parce qu'il est complètement enveloppé par l'armée d'élite de Saül, qui est sur le point de mettre la main sur lui. Quand arrivent des nouvelles qui obligent Saül à quitter avec son armée parce que Israël est en danger, et à ce moment-là, le texte nous dit que David va se réfugier dans les cavernes et dans l'oasis d'En-Gedi. Ah, mes amis, En-Gedi, c'est un lieu paradisiaque, qui est d'autant plus paradisiaque qu'il côtoie directement l'enfer de la mer morte. Vous avez la mer morte et une magnifique source qui descend de, des falaises de très très haut pour se jeter dans la mer morte. Et tout au long d'une partie du parcours de cette falaise, descendant très bas, tout au long du parcours de ces sources, oh, une oasis de verdure extraordinaire dans un paysage qui, au-delà, est tellement desséché comme l'est toute cette région de la mer morte. Et puis des cavernes, on voit encore aujourd'hui des lieux qui sont des grandes cavernes du coin. Et c'est un des rares endroits où on peut voir, dans cette zone désertique, les animaux sauvages, les bouquetins et autres, et qui viennent à quelques pas de vous pour profiter des sources d'Engedi. Un véritable jardin. Moi, j'imagine David qui vient de frôler le halali, n'est-ce pas, environné comme un cerf aux abois par la meute de chiens et les chasseurs, le cor qui sonne, n'est-ce pas, et puis qui, au dernier moment, peut échapper et qui va se retrouver dans un endroit absolument paradisiaque où il va pouvoir se désaltérer, se tremper, retrouver des forces, et puis ensuite la lutte va continuer. Voyez, c'est tellement beau cette histoire de David à cet égard. Dieu ne laboure pas toujours notre cœur. Il n'y a donc pas que l'épreuve. Verset 25-28. N'est-ce pas, après en avoir aplani la surface, qu'il répand de la nigelle et sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre, il lui a donné ses instructions. On ne foule pas la nigelle avec le traîneau, la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. On bat la nigelle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Au passage, nous ne sommes pas du tout certains que la traduction des mots hébreux qui désignent ces différentes céréales corresponde exactement aux céréales que nous avons aujourd'hui. Parce que certaines céréales ont peut-être disparu. On n'a pas forcément l'équivalent. Mais il fallait bien donner des indications de céréales qui s'y apparentaient, n'est-ce pas? Mais alors, l'enseignement est fantastique. Ce que j'aime dans les versets 25 et 28, c'est que Dieu dit à Israël, et Dieu nous dit, « Je sais parfaitement faire la différence entre mes enfants. Je sais parfaitement faire la différence entre chacun de mes enfants. Nous sommes différents les uns des autres. Nous sommes très différents les uns des autres ici. Cette différence est même marquée dans notre corps, puisque nous avons quelques éléments dans notre corps qui nous sont totalement propres, que personne d'autre sur la surface de la terre n'a exactement de la même manière. C'est un symbole, n'est-ce pas? Dieu a voulu nous dire qu'à côté des immenses ressemblances par certains côtés du genre humain, il y a tant de différence. Nous sommes différents les uns des autres et avons une place marquée dans le plan de Dieu, dans sa stratégie. Chacun d'entre nous est une autre céréale dans le champ de Dieu. Et cela veut dire que Dieu choisit soigneusement le traitement, l'épreuve, le parcours de chacun d'entre nous. Il n'y a ni arbitraire ni désordre. Les épreuves, les tests sont soigneusement mesurés. Dieu respecte notre personnalité à chacun tout en la purifiant. Dieu nous éprouve en fonction de sa connaissance parfaite de notre personne, de ses plans, de ses objectifs pour nous. Et cela m'encourage. Cela veut dire qu'à la fin d'un week-end comme celui-ci, je ne suis pas tenté d'essayer à tout prix de penser que mon chemin va être celui de David. Non. Peut-être qu'il aura des ressemblances. Mais nos chemins à chacun sont différents. Je ne regarde donc pas le chemin par lequel les autres passent en ayant peur de devoir emprunter exactement le même chemin. Je regarde à celui qui a prévu un chemin unique au monde pour moi en fonction de sa connaissance parfaite et de la place qu'il m'assigne dans son champ. Combien c'est bon de savoir que nous sommes plus que des pions sur un échiquier. Nous sommes plus que simplement des soldats sur un champ de bataille, avec le même uniforme, n'est-ce pas? C'est beau ça, n'est-ce pas? Et c'est peut-être ce que nous avons parfois du mal à comprendre dans l'Église aussi. Quand l'Église devient sectaire, ça signifie notamment qu'elle a oublié cet aspect des choses. C'est le propre des sectes parabibliques que de justement vouloir que chacun de ses membres emprunte le même itinéraire, en prononçant les mêmes mots, en faisant les mêmes gestes, en remplissant toutes les mêmes conditions, etc., n'est-ce pas? J'aime le message de Dieu dans les Écritures à cet égard. Parce que c'est vrai, s'il y a un tronc solide qui nous est commun, s'il y a les colonnes de la foi chrétienne qui sont non négociables, indiscutables, auxquelles nous devons tenir ferme au risque d'y laisser notre vie, nos chemins à chacun sont différents. Et Dieu a sa pédagogie qui a des points communs entre les uns et les autres, mais pour un chemin qui est particulier. Et puis, toujours dans ces versets 25 à 28, Dieu laboure toujours avec l'objectif de semer et de récolter à son heure. Parce que, bien entendu, dans une parabole comme celle-ci, tout ce qui se passe est fait en vue d'une récolte. En vue d'une récolte. Alors, Dieu aussi veut engranger une récolte. Dieu veut la fécondité par la souffrance. Et déjà, c'est extraordinaire, dans le livre de la Genèse, chez ce fameux Joseph, qui a passé en tout cas 12 années de sa vie à accumuler les souffrances injustes, les situations les plus odieuses, les plus ignobles, mais sur lesquelles Dieu a posé sa main. Dieu était avec lui, Dieu était avec lui, Dieu était avec lui, Dieu était avec lui. 4 fois dans Genèse 39, repris dans le livre des Actes, au chapitre 37, Dieu était avec lui. Et ce Joseph-là, quand à l'âge de 30 ans, il devient le bras droit de Pharaon, qu'il épouse cette femme du pays d'Égypte et que de leur mariage naissent 2 enfants, il va prendre soin, n'est-ce pas, d'appeler l'un des 2 Éphraïm pour bien souligner « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». Et quand on sait que Éphraïm va devenir plus tard, la tribu la plus importante du royaume du Nord, la tribu de Joseph. Elle va jouer un rôle extrêmement important et que, à cause de son importance et de la signification d'Éphraïm, Éphrata, fécond, fécondité, le prophète Osée va choisir d'appeler le royaume du Nord, non pas Israël, mais de l'appeler Éphraïm. Et vous avez près d'une quarantaine de fois dans le prophète Osée, parlant du péché d'Israël qui va le conduire en Assyrie, vous avez 38 fois, je crois, le terme Éphraïm. Et que fait Osée quand il parle à ce royaume du Nord et qu'il l'appelle Éphraïm? Il lui dit, tu t'appelles Éphraïm? Eh bien, tu vas être stérile. Puisque tu t'es éloigné dans la prostitution spirituelle, dans la prostitution physique, dans l'idolâtrie la plus abominable, dans la corruption la plus incroyable, puisque tu m'as abandonné, toi qui as un titre si exceptionnel, Éphraïm, fécondité, tu n'enfanteras plus. Tu ne seras plus fécond. C'est un des grands thèmes du prophète Osée, n'est-ce pas? C'est dramatique. Quand dans la vie d'un enfant de Dieu, sa régression, sa vie rétrograde, son éloignement de Dieu, finit par conduire Dieu à lui dire, tu sais, fini la fécondité. Si tu ne reviens pas à moi au pied de la croix, tu ne peux qu'être stérile. Alors que moi, j'ai prévu de te rendre fécond dans le pays de ton affliction. Tu es affligé, réjouis-toi. Tu es affligé en vue de la fécondité. Parce que lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 33, 3, 3, 3, c'est intéressant, hein, le dit si bien, ce n'est pas volontiers que Dieu humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Ça ne plaît pas à Dieu de nous faire passer par ces chemins-là. Mais il sait que ce sont les seules voies qui mènent à la fécondité. Il le sait. Est-ce que ça nous plaît de châtier nos enfants? Est-ce que ça nous plaît parfois de vivre en crise avec eux pendant un certain temps pour leur résister, pour leur futur bonheur? Non. Ça ne nous plaît pas. Nous aimerions mieux tout le temps les serrer très fort et les couvrir de caresses et d'affections manifestées. C'est la même chose avec Dieu. Dans le prophète Ésaïe, Dieu fait dire à Ésaïe que il ne peut plus leur manifester son affection. Dieu n'a pas cessé d'aimer Israël au sens de l'amour de l'alliance inconditionnelle. Ésaïe 54. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Mais ça, c'est le caractère inconditionnel de l'amour de l'alliance. Dieu s'est engagé pour une alliance, lui ne faillira jamais à son alliance. Par contre, Dieu va dire à Israël, si tu continues à t'éloigner de moi de cette manière, je vais cacher ma face et je ne pourrai plus te donner mon affection. Au lieu de te caresser, je vais devoir te frapper avec la verge. Cette verge s'appellera l'Assyrie pour le royaume du Nord. Cette verge s'appellera Babylone pour le royaume du Sud. Mais souvenons-nous de cela. Alors, mes bien-aimés, on va s'arrêter là parce qu'il y aurait tant d'autres choses à dire, mais c'est toujours comme ça avec les Écritures. On n'est jamais au bout. Je vous laisse cette citation que je trouve très intéressante. Et dans son infinie sagesse, Dieu sait exactement quelle adversité nous permettra de croître de plus en plus à la ressemblance de son Fils. Il sait non seulement de quoi nous avons besoin, mais aussi quand nous en avons besoin et comment cela doit se produire dans notre vie. Il est le parfait éducateur, le parfait entraîneur. Sa discipline est toujours parfaitement adaptée à nos besoins. Il ne nous forme jamais trop, en permettant trop d'afflictions dans notre vie, j'ajoute, même quand nous considérons que c'est trop, Dieu lui sait que ce n'est pas trop. Et c'est souvent avec le recul que nous devons reconnaître que finalement, ça a été fécond, parce que notre vie a changé. Quand on était dedans, on était immergé, on ne comprenait plus rien, n'est-ce pas ? Ça, c'est ce qu'on aurait vu, parce qu'il y a encore une heure et demie à deux heures d'études, mais vous trouverez dans le livre Fidèle quoi qu'il en coûte. Quand on ne comprend pas, Père, je ne te comprends pas, je me souviens d'une période de ma vie, trois ans qui ont abouti à la rédaction de ce livre Fidèle quoi qu'il en coûte, où mon épouse et moi, nous avons versé des larmes. C'était sur tous les plans que tout allait, mais complètement de travers. Et Dieu, dans sa grâce, oh, je vous le dis en passant, parce que c'est tellement beau, sans développer, voyez cette carte. Mon Père, je ne te comprends pas, mais je me confie en toi. Quand nous étions au plus profond du creuset, la poste a déposé dans notre boîte aux lettres une enveloppe dans laquelle il y avait une carte équivalente à celle-ci. Ah ! Combien je bénis Dieu pour l'arrivée de cette carte. Je l'ai mise devant moi, sur mon bureau, pour pouvoir m'en imprégner et dire au Seigneur, je ne te comprends pas, je ne comprends plus rien. Je chemine avec toi depuis des années, mais alors là, toutes mes équations, tout ce que j'ai appris, j'ai l'impression que ça n'a plus aucun sens. Et puis au bout d'un certain temps, apprenant la situation périlleuse, difficile, de souffrance que connaissait un ami, j'ai glissé cette carte dans une enveloppe avec quelques mots d'encouragement pour cet ami. Mais Dieu savait que j'en avais encore besoin. Et dans la semaine qui suivait, je crois, je partais en Alsace pour une série d'enseignements. À Saverne, je me souviens très bien. Et dans cette église de Saverne, il y avait une sœur, vieille dame, qui est auprès du Seigneur maintenant, qui, je le savais, priait pour nous tous les jours. Et à la fin de la première réunion, quand je lui ai serré la main, elle ne savait rien de ce que nous connaissions en particulier dans cette période. Elle m'a glissé une enveloppe. Rentrant dans ma chambre, j'ai ouvert l'enveloppe, il y avait la même carte. Alors, j'ai laissé cette carte pendant un certain temps sur mon bureau. Et puis, au bout d'un certain temps, toujours dans ce tunnel, j'ai simplement mis la carte dans un dossier pour pouvoir l'utiliser dans la préparation de certaines études sur ce thème. Pensez donc. Dieu considérait que j'avais encore besoin de ce même message. Si bien que peu de temps après que j'ai mis cette carte dans ce dossier et dans mon armoire, un courrier est arrivé et il y avait à nouveau cette carte. Ça c'est Dieu, n'est-ce pas? Ça c'est Dieu. Dieu qui sait. Dieu qui sait. Alors, soyons suffisamment sensibles pour ne pas passer à côté de tous les clins d'œil de Dieu sans les voir. Vous savez, parfois, nous sommes tellement hypnotisés par une porte qui est en train de se fermer devant nous que nous ne voyons pas celle qui est en train de s'ouvrir au même moment. Combien de fois nous passons à côté de clins d'œil merveilleux de Dieu, de Jonathan qui le place là. Mais on est tellement pris, n'est-ce pas, dans la gangue de notre problème. Nous avons tellement des œillères qui nous font regarder uniquement le problème que nous nous détournons de toutes les grâces que Dieu place sur notre route. Mais ce qui est beau, c'est de savoir que Dieu veut la fécondité. Il n'y a pas que l'épreuve. Et c'est si beau, simplement, comme le dit Jean 15, en étant sarment attaché au cep, de pouvoir simplement porter du fruit flux de fruits, beaucoup de fruits, et du fruit qui demeure, puisqu'il y a cette belle progression dans l'enseignement de Jésus, qui va de pas de fruits pour le pseudo-disciple, attaché superficiellement au cep, jusqu'au fruit qui demeure, qui exprime la stabilité dans la fécondité. Et c'est là que Dieu veut que nous allions. Pas que nous soyons focalisés sur le beaucoup. Nous, nous sommes intéressés par le beaucoup. Jésus va plus loin, il dit non. Non, c'est pas le beaucoup. C'est que ça demeure. Le fruit qui demeure. Seigneur, merci. Merci pour le bienfait de ta parole, de l'action de ton esprit, de la révélation que tu nous donnes de ta pensée, qui rafraîchit nos cœurs assoiffés, affamés, en recherche. Seigneur, nous voulons continuer à te chercher, ne pas nous arrêter en cours de route. Tu as tant à nous révéler.